Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Cette semaine, pas de Maxime Dupuis, puisque, comme il le dit lui-même, il est né du mauvais côté de la Manche. Il a donc été, comme nous tous, très touché par la disparition de la reine et a décidé, lui aussi, de laisser son trône. Voilà pourquoi c'est moi, l'héritier désigné, the next big thing, comme on dit dans la rédaction.
Ça, on en parlera après, mais c'est pas évident.
Qui récupère son trône. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole, puisque je suis certain qu'il nous écoute, pour lui signaler que je m'apprête également à récupérer son gigantesque bureau avec vue panoramique sur la Tour Eiffel, sa voiture de luxe et sa place de parking, son manoir à Saint-Tropez et surtout, le contrôle total de l'opinion de Martin Mosny ici présent.
Tout à fait. Bah, ça va très bien, mais moi sans Maxime, sans mon maître, je suis un peu dépourvu. Je suis un peu comme le Royaume-Uni sans la reine en fait. Voilà. Maxime, c'est un petit peu ma petite reine d'Angleterre, tu vois. C'est ma petite Elisabeth II, Maxime. Et j'avoue que quand il est pas là, bah ouais, tu perds tes repères, quoi. Bah, ça vient pas de toi, hein, Julien, parce que je t'aime beaucoup, demeurant.
Je suis pas le roi, moi.
Non, toi, t'es pas le roi, toi. Non, t'es pas the next big thing, t'es...
The big thing.
Ouais, t'es juste la big thing, ouais. On en parlait avant l'émission, parce qu'il est un peu forci, Julien. Mais ça nous arrive à tous. Non, mais je suis content d'être avec toi quand même, Julien. Ça fait plaisir. Ouais, si ça fait plaisir. On remercie aussi Anne, qui est derrière les manettes, à la production, et Popovic, évidemment, pour les visuels. On vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, même les mauvaises. Laissez-nous des étoiles par pitié, même si Julien c'est un peu en dessous de Maxime aujourd'hui, ça va l'être, on vous prévient avant, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, ça sera un peu en dessous, allez, ça va lui faire du bien, mettez-lui des petits messages quand même, ça le reboostera, notre ami Jap. Et pour les meilleurs moments de l'émission et pour voir la chemise à carreaux que nous a sorti Jap aujourd'hui, bah faut aller sur eurosport.fr pour voir les meilleurs moments de l'émission, c'est ça?
Ça va, il te manque quelque chose là?
Non, là c'est bon. Non, c'est bien. Là je suis bien.
J'ai grossi, j'ai une chemise à carreaux.
Bah, t'as une chemise à carreaux ou pas? J'ai pas dit si elle était bien ou pas.
Je m'y connais pas trop en mode, mais je crois que les carreaux permettent de un petit peu à mincir.
Ah peut-être. Ah c'est une astuce.
Ouais,
c'est une astuce. Maxime lui, il s'habille en noir. C'est pas mal aussi, ça fonctionne bien. De quoi on va parler aujourd'hui, déjà?
On va parler de Griezmann, Antoine Griezmann, qui a encore marqué cette semaine en Ligue des Champions. Mais qui a encore trop peu joué, on peut le dire, parce que derrière tout ça, il y a des conditions légales, des conditions de contrat, en lien avec le Barça notamment, et on va se poser toutes ces questions autour de cette situation-là.
C'est un sommaire, c'est quand tu...
Quand mais il faut donner envie aux gens.
C'est un petit résumé. Hein. Là, le mec, il nous a fait le sujet. Il nous a fait le sujet. Deuxième sujet, on va parler de Neymar et d'Mbappé. Il y aurait des tensions sur la ligne. On va voir ce qu'il en est et on va surtout vous donner notre avis. Et on terminera déjà par Peter Bosch.
Après la défaite de Lyon en milieu de semaine, on se demandera si la situation de Peter Bosch à Lyon peut tenir encore longtemps.
Là, c'est bien. Allez, on va démarrer cette émission avec Griezmann et ce qu'on a appelé la clause de la honte. On va essayer d'abord, dans un premier temps, d'être très pédagogique et ça tombe bien puisque Julien Pereira qui se trouve à mes côtés a tout étudié, il a épluché tous les contrats, il est allé à Madrid, à Barcelone, il a vu les plus grands avocats du monde du football. Jap, explique-nous déjà en quoi consiste cette clause et pourquoi Griezmann ne joue que 30 à 35 minutes par match depuis le début de saison.
Ouais, c'est même moins de 30 minutes depuis le début de la saison lors de chacun des 5 matchs officiels de l'Atlético depuis le début de la saison. Il est entré après l'heure de jeu. Pourquoi ? Parce que l'Atlético estime que l'option d'achat de 40 millions assortie au prêt du Français par le Barça sera automatiquement levée s'il dispute 50% du temps des matchs pour lesquels il est disponible. Cette nuance est importante. De son côté, et ça ce sont les médias pro-Barça qui le disent, Mundo Deportivo Esport, le Barça estime que l'option d'achat est déjà levée puisque Griezmann a disputé plus de 50% du temps des matchs de la saison dernière où il était déjà prêté.
Donc la première année de prêt.
Absolument. et qu'il s'agissait même de la condition pour que son prêt soit prolongé d'une saison, c'est-à-dire la saison en cours.
Voilà, donc c'est assez compliqué, mais ça explique pourquoi Griezmann, pour l'instant, ne se contente que de bout de match, alors même qu'il semble avoir retrouvé une vraie forme. C'est le co-meilleur buteur de l'Atlético Madrid, alors qu'il ne joue que 30 minutes par match. Il a marqué 3 buts, il a encore marqué le but victorieux en Ligue des Champions, c'était cette semaine. Finalement, on se retrouve dans une situation que moi, je n'aurais jamais pu imaginer dans le foot tel que je l'ai connu jusqu'ici. On est dans une situation folle où l'Atlético a fait pour moi la première erreur, une erreur majeure, c'est-à-dire qu'il s'est adjugé les services d'un joueur dont il n'est pas capable de payer la clause. Donc, l'Atlético aujourd'hui n'est pas capable de tenir le contrat qu'il a signé. Et ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est-à-dire, c'est la base. Quand tu ne peux pas te payer un joueur, tu ne prends pas ce joueur. Parce que là, les problèmes financiers de l'Atlético font qu'on se passe de l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que voilà, Griezmann, ça reste quand même le meilleur joueur de l'Atlético de la dernière décennie, sans aucune discussion possible. Et il est cloué sur le banc parce que les comptables du club ont fait n'importe quoi, grosso modo. Une mise à sur une vente de Morata qui n'est jamais arrivée. Et voilà comment on se retrouve dans un cul-de-sac phénoménal. Pour moi, c'est pour ça qu'on parle de clause de la honte dans ce sujet. Ce sont des choses qui ne devraient jamais, au grand jamais, arriver.
Je suis d'accord sur tout ce que tu viens de dire. J'espère. J'ai quand même une notion importante. On peut aussi prendre l'angle Barça et de se dire que après l'été qu'a passé le Barça à faire des montages dans tous les sens pour pouvoir faire entrer ses recrues, qu'il a, après quelques matchs seulement du début de saison, est déjà en train d'entamer des possibles procédures légales pour inciter l'Atlético à payer ses 40 millions et pour faire comprendre à l'Atlético que de toute façon, même si Griezmann ne joue pas plus de 30 minutes, l'Atlético devra payer. On est finalement dans une gigantesque fuite en avant qui est, je trouve, largement incarné, beaucoup plus par le Barça que par l'Atlético, même si évidemment personne n'est irréprochable.
Et après, tu as aussi la part de responsabilité de Griezmann, qui à la base a fait un mauvais choix en rejoignant il y a 3 ans le FC Barcelone et qui aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là aussi, parce qu'à ce moment-là, il a fait le mauvais choix. Mais aussi, on pourrait lui reprocher, j'allais dire, presque son manque de caractère. Est trop gentil, Griezmann. Est-ce qu'on imagine un seul instant, l'Atlético ou un autre club faire ça à... Allez, vous pouvez prendre les 25 premiers du Ballon d'Or à Ronaldo, à Messi, à Lewandowski, à Mbappé. Non. Et pourquoi ils le font à Griezmann aussi? Je pense que c'est parce que Griezmann, c'est un vrai joueur du collectif, c'est un vrai joueur de l'équipe. Et donc, il ne veut pas faire de vagues. C'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui a toujours le sourire. C'est pas quelqu'un qui partira au bras de fer. C'est pas quelqu'un qui s'étalera dans les médias. Et donc, jusqu'ici, il ne dit rien, Griezmann. Et encore une fois, on est à 2 mois de la Coupe du Monde. Il est dans un état de forme qui, semble-t-il, même si on le voit que 30 minutes par match, donc c'est compliqué, dans un état de forme qui est plutôt optimum. Comment on peut imaginer laisser un joueur de ce calibre en pleine forme, sur le banc jusqu'à la 60e minute? Ça paraît complètement improbable. Et quand on voit le caca nerveux que nous font Mbappé ou Neymar quand ils sortent, juste quand ils sortent du match, ou quand Ronaldo est sur le banc qui menace de quitter, qui quitte Old Trafford d'ailleurs en plein match, voilà, Griezmann n'y fera jamais ça. Et c'est pour ça que l'Atlético se le permet. Et je trouve ça, c'est presque un abus de faiblesse sur le champion du monde.
Il y a quelque chose qui l'illustre très bien, c'est ce qu'a dit Simeone à ce sujet-là.
Ah oui, ce qui est scandaleux là aussi.
Il a répondu qu'il avait la certitude que Griezmann pouvait être très bon sur 30 minutes, mais qu'il ne savait pas encore sur 60 minutes.
Ça, c'est une vaste blague.
C'est une vaste blague parce que Griezmann, je pense que personne ne sait mieux que Simeone ce que Griezmann a apporté sur 60 minutes et même sur l'intégralité des matchs.
Oui, en plus, tu peux dire ça à un joueur
jeune.
Un joueur jeune qui démarre sur 30 minutes, il découvre une compétition, ou quelqu'un qui revient de blessure, ou alors vraiment un joueur en fin de carrière. Mais là, Griezmann, c'est pas un jeune, il n'est pas en fin de carrière et il revient pas tout à fait de blessure, il a fait une préparation complète. Donc là, c'est en plus du foutage de gueule de Simeone qui n'assume pas la stratégie adoptée, j'allais dire adoptée, non, ou alors sous la contrainte par l'Atlético Madrid. Bref, c'est tout ce qui me débecte dans le football actuel, c'est-à-dire un arrangement à la petite semaine, des montages financiers, des clubs qui ont la corde au cou parce qu'ils ne savent pas gérer leur futur, et on se retrouve à avoir un Griezmann qui joue 30 minutes par le match. Bref, c'est une catastrophe.
On rappelle d'ailleurs que l'Atlético, à la base, espérait potentiellement vendre notamment Morata. Ouais. pour régler ce cas-là et que finalement ils n'ont pas.
Oui, mais ils font pas les choses dans le bon sens.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ils le font pas dans le bon sens. Tu vends Morata et après tu lèves l'option ou après tu t'intéresses à Griezmann. Là, le problème, c'est que ces clubs-là, et le Barça aussi, hein, mais là, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est l'Atlético, ils font tout à l'envers pour moi. Et on se retrouve dans une situation qui n'aurait jamais, absolument dû jamais exister. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur la dernière. Oui. C'est dommage, mais on coupera.
Et puis, est-ce que ce sujet-là peut justement marquer un avant et un après ? On aimerait que ces choses-là soient régulées par l'UEFA, par la FIFA, pour mettre fin à toutes ces clauses. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Maxime parce que je sais que c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur.
C'est vrai, c'est vrai.
Qui mettrait fin à toutes ces clauses absolument farfelues qu'on voit quasiment maintenant dans tous les transferts.
Allez, on va passer au deuxième sujet. Mbappé, Neymar, est-ce que le PSG est assis sur une poudrière avec son duo ? Voilà, on va remonter un petit peu le fil des événements. On a Mbappé et Neymar qui font tous les deux un gros début de saison, en particulier le Brésilien qui est particulièrement décisif et scintillant depuis le début de cette saison. On a le premier match de l'année, la première grosse affiche de l'année en Ligue des Champions avec Mbappé qui met un doublé, le premier but sur une louche absolument exceptionnelle de Neymar et un Mbappé qui oublie en seconde période un Neymar absolument seul au second poteau qui n'aurait plus eu qu'à déposer le ballon dans les filets de la Juve. Mais Mbappé l'oublie, Neymar l'a un petit peu mauvaise et c'est l'équipe qui nous apprend cette petite déclaration de Neymar qui est un peu passée inaperçue, mais qui répondrait, on va le mettre au conditionnel, à l'attaché de presse du Paris Saint-Germain qui voulait que Neymar se présente devant la presse. Et donc, qui lui aurait dit, tu es sûr vraiment, parce que si je parle ce soir, ça va faire des problèmes. Et plus tôt dans la semaine, juste avant le match face à la Juve, Mbappé avouait, et là on peut lui reconnaître sa franchise, qu'il y avait des hauts et des bas dans sa relation avec Neymar. Galtier aujourd'hui en conférence de presse, et pour terminer ce cycle-là, en tout cas il l'espère, lui nous a dit que la relation était très bonne entre Kylian et Ney, et ce n'est pas de la langue de bois, j'en ai parlé avec Kylian, il y a deux temps dans cette action, je n'ai rien ressenti de négatif entre Kylian et Ney depuis la fin du match. Diab, j'aimerais avoir toi ton sentiment sur la cohabitation entre les deux stars, dont on a l'impression qu'elle se détériore un petit peu.
Déjà, on peut dire qu'il y a une contradiction entre ce que dit Galtier aujourd'hui et ce qu'a dit Mbappé lundi, puisque, comme tu l'as dit, il était très franc en disant que la relation était parfois très chaude, parfois très froide. Sur la relation, on a bien compris que ce ne seront jamais les meilleurs amis du monde. Est-ce que c'est un problème ? Non, puisqu'on a des dizaines et des dizaines d'exemples de joueurs qui ne pouvaient pas se fifrer, pardonnez-moi l'expression, en club, et qui pourtant ont très bien cohabité tout au long de leur carrière. Donc, pour le PSG, c'est pas un problème, et on l'a bien vu d'ailleurs mardi. Alors oui, il y a cette action, il y a aussi juste avant une action qui amène le but de Mbappé, où les deux joueurs se sont congratulés sans problème. Donc je dirais même que c'est plutôt pour l'instant, en tout cas, une bonne chose, puisque ça incite chacun des deux joueurs à tirer le meilleur, parce qu'il y a effectivement une notion d'orgueil, une espèce de guerre d'ego où l'un et l'autre veut montrer qu'il est meilleur que justement l'autre. Donc je pense pas que ce soit un problème, et la deuxième chose, c'est que je pense que le duo Galtier-Campos est suffisamment bon en communication, à la fois face à la presse, mais aussi avec les joueurs, pour être capable de mettre les barrières, de mettre les limites. Globalement, je ne vois pas Neymar, là par exemple, il s'est apparemment retenu, je ne vois pas Neymar faire une sortie complètement folle où il va critiquer Mbappé, parce qu'il sait que ça le desservirait plus que ça le servirait. Donc globalement, je ne suis pas très inquiet, malgré cette relation un petit peu distendue entre eux.
Alors simplement, si on constate froidement les choses, c'est que c'est le deuxième épisode après le Penalty Gate qui a eu lieu en début de saison et qui déjà opposait les mêmes protagonistes. Donc on peut se dire que tant que ça gagne, tout va bien. Voilà, moi c'est plutôt mon point, c'est de dire tant que ça n'a pas d'incidence sur le résultat de l'équipe, voilà, Neymar, il ne va pas l'ouvrir parce que la Juve a perdu, le PSG a gagné. Si la Juve avait égalisé dans les derniers instants, on aurait beaucoup plus reparlé de ce ballon, de cet oubli de Kylian Mbappé envers Neymar, et ça aurait pris des proportions beaucoup plus gigantesques. Donc voilà, moi mon point c'est de dire, tant que tout va bien, disons que ça sera facile, enfin plus facile pour Galtier, Campos et le PSG de contenir tout ça. Parce que pour moi aujourd'hui c'est une évidence, deux coqs dans une même basse-cour, c'est très compliqué à faire cohabiter. Si on reprend du début, au départ, Neymar était un peu le mentor d'Mbappé, donc il n'y avait pas de souci. Mbappé admirait Neymar, Neymar le prenait pour son petit frère. Finalement, personne ne faisait de l'ombre à l'autre, chacun était dans un rôle bien défini. Et puis, ça fonctionnait comme ça. C'est quand Mbappé a commencé à vouloir prendre les commandes du Paris Saint-Germain, à vouloir attirer toute la lumière à lui, à vouloir devenir, voilà, à vouloir incarner le projet PSG, que les choses se sont mis un peu, que la relation entre les deux s'est mis un peu à dérailler. Il faut rappeler une chose, c'est que pourquoi Neymar est parti du FC Barcelone ? Ben parce qu'il voulait sortir un peu de l'ombre de Lionel Messi du côté du FC Barcelone, un Messi qui était omnipotent. Le FC Barcelone, c'était Lionel Messi, ce n'était pas Neymar. Or aujourd'hui, Neymar se retrouve exactement dans la même position du côté du Paris Saint-Germain, sauf que cette fois, ce n'est pas Messi, c'est Mbappé. Que lui, il l'a vu évoluer, Mbappé, il l'a vu grimper vers les étoiles. Et que Neymar, aujourd'hui, il se retrouve un peu dans la position dans laquelle il était et pour laquelle il était parti pour cette course au Ballon d'Or, etc. Et je rajouterai une chose et après je te laisserai terminer, Diap. C'est que c'était encore peut-être plus facile à accepter avec Messi, qui avait peut-être, sur le terrain et de par sa position et de par son rôle,
avait un autre statut.
Voilà. Et il était plus dans la générosité aussi qu'un Mbappé qui est là pour terminer les actions et qui est peut-être encore un peu plus intransigeant. Donc, c'est pour ça que les relations se sont détériorées et que je pense que ça va être très dur pour Neymar de mettre son ego de côté.
Sur l'argument du départ de Neymar du Barça,
ouais.
Je ne suis pas certain qu'il soit encore valable parce que j'ai quand même envie de penser que à l'âge de Neymar, la trentaine, il a évolué dans...
Ça reste un gamin, Neymar. Pour ceux qui ont vu le documentaire, c'était sur Netflix, je crois.
Oui. J'ai quand même tendance à penser qu'il est aujourd'hui beaucoup plus capable de partager le gâteau, si je puis dire, qu'il ne l'était en 2017. Sur la question du fond, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que les deux ont une saison et ils doivent absolument justifier leur choix. Mbappé, parce qu'il vient de prolonger et qu'il doit absolument gagner la Ligue des Champions pour justifier ce choix-là, en tout cas, faire une belle saison pour justifier ce choix-là. Et Neymar qui a quand même un petit peu été poussé de dehors cet été et qui lui a un vrai esprit de revanche. Et je pense que les deux sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils tireront mieux, en tout cas qu'ils pourront mieux atteindre cet objectif-là s'ils sont capables de s'entendre sur le terrain, comme globalement ils le font depuis le début de la saison, même si effectivement il y a quelques actions, le penalty gate, cette action face à la Juventus, mais globalement il y a aussi beaucoup de passes décisives, il y a des phases de jeu qui ont été très intéressantes entre les deux. J'ai quand même tendance à penser qu'ils sont conscients de tout ça.
C'est pour ça que je te dis, tant que ça gagne, ça ira. Mais ce qu'il faudra guetter, c'est le premier accroc. C'est la première fois où le PSG trébuchera et la part de responsabilité des uns et des autres. Parce que là, je pense que c'est pour ça qu'on peut parler de poudrière. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas de danger.
C'est fragile.
En revanche, à la première étincelle, et moi, je te rejoins quand tu dis que pour l'instant, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Parce que moi, je défends l'idée depuis quelques semaines que le début de saison de Neymar, oui, il y a la Coupe du Monde, oui, il y a Galtier, son replacement, etc. Mais la première chose, c'est l'orgueil du bonhomme. C'est-à-dire, ça reste un immense champion, Neymar, ce qu'on a eu un peu tendance à oublier ces dernières saisons. Et quand il a vu que Mbappé avait un contrat en or, tout le foin médiatique qu'on a fait autour de lui, alors que lui avait prolongé un an auparavant et que finalement, c'était passé un petit peu inaperçu, je pense que lui, il a l'orgueil et toute sa fierté pour dire, attendez, OK, c'est peut-être le club de Mbappé. N'oubliez pas qui je suis, voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Et c'est ce qui, pour moi, explique en premier lieu pourquoi aujourd'hui il marche sur l'eau, tout simplement.
Et puis, dernière chose, on a quand même vu que Galtier était capable de faire des choix, qu'il est capable de mettre l'un ou l'autre sur le banc, en tout cas d'en sortir l'un ou l'autre.
Mais je pense qu'il va falloir bien peser ses choix, d'autant plus avec ce contexte-là. Je pense que chacun va compter le nombre de minutes qu'il joue. Mais
c'est possible.
Voilà, je pense.
Mais il a de son côté la déclaration d'Mbappé qui était très intéressante. Malheureusement, tout ça est un petit peu passé à la trappe avec l'histoire du char à voile. Mais il dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne s'opposera jamais au choix de Galtier, mais que s'il se fait sortir à la 60e, il ne faudra pas espérer un sourire de sa part. Donc, quelque part, il a l'aval de Galtier, de Mbappé sur cette gestion-là.
On va terminer cette émission qui, pour l'instant, est brillante.
Oui, c'est le mot que j'avais en tête.
Ouais, c'est le mot que pour l'instant est vraiment parce que tu tiens avec tes épaules, sur tes épaules, l'émission pour l'instant. Tu vois, comme quoi des fois ça sert d'être un peu trapu.
J'ai peur que tu dises autre chose.
Voilà, comme quoi des fois ça sert. On va terminer avec Peter Bosch. C'est Julien qui a voulu amener ce sujet. Il est arrivé à la rédac à 11h15, alors que normalement c'est 11h, mais bon, on va rien
alors
dire.
Alors que je suis arrivé, t'étais pas encore là. Mais...
Si je suis arrivé à 10h20, j'ai amené les vinoiseries.
Voilà, t'as été à la boulangerie.
Voilà, j'ai amené les vinoiseries.
Après, c'est moi qui pense.
Donc il a dit, ouais, il faut qu'on parle de Lyon. Je dis ok, ok, ok. Donc on va parler de l'Olympique Lyonnais parce que déjà vous voulez absolument parler de l'OL. Peter Bosch, Lyon s'est incliné assez rudement sur la pelouse de Lorient, c'était mercredi, mais c'est un peu passé à la trappe parce que c'était en pleine Ligue des Champions. 3 buts 1, c'est la première défaite de Lyon cette saison et on a toujours du mal à voir la direction de cet Olympique Lyonnais, si bien qu'on va se poser cette question déjà. Peter Bosch, jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à quand ça tiendra? Bah, c'est la question que je te pose, Diap. Jusqu'à quand ça va tenir, Peter Bosch?
Ça dure quand même déjà depuis longtemps.
Oui. Trop longtemps?
Trop longtemps, non pas encore. Mais quand on regarde les résultats et qu'on les compare aux deux derniers entraîneurs, alors il y a eu Silvino aussi, mais on a choisi de prendre les entraîneurs qui sont restés un peu plus longtemps,
ouais.
Notamment Rudy Garcia et Bruno Genesio, on se rend compte que non seulement Peter Bosch ne fait pas mieux, mais surtout il fait un petit peu moins bien.
Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas les statistiques sous les yeux, Peter Bosch, c'est 1,78 points par match depuis qu'il est arrivé. Garcia, 1,88 et Genesio, 1,84. Donc, c'est vrai que le bilan de Peter Bosch est plutôt médiocre. On rappelle que Lyon a terminé 7e l'an dernier, ce qui était la pire place de l'OL depuis plus de 20 ans, hein. Beaucoup plus même, je crois que c'est 27 ans, quelque chose comme ça.
On peut rappeler quand même que l'échantillon n'est pas le même parce que Genesio et Garcia ont disputé plus de matchs, en tout cas, était à la tête de plus de matchs, à la tête de Lyon durant plus de matchs. Et on peut imaginer que soudainement le projet Bosch prenne ses racines et finisse par marcher. Mais on se rend compte quand même que finalement il est assez tranquille, en tout cas il n'est pas menacé directement pour le moment, et que dans sa situation, peut-être que ses entraîneurs, ses prédécesseurs auraient été beaucoup plus en difficulté. Et donc je te pose une nouvelle question, Martin.
Pose-la moi donc.
Pourquoi Peter Bosch finalement jouit de ce statut qui lui permet de rester à la tête de Lyon sans que l'on voit franchement de gros progrès dans le jeu? Alors oui, il y a des détails, on va pouvoir en parler, où ça va mieux. Mais globalement, la patte Bosch, c'est pas aussi clair que la patte Tudor à Marseille, même la patte Galtier au Paris Saint-Germain.
Alors il y a plusieurs choses. Si on compare à Genesio et notre ami Rudy Garcia, bon, Genesio avait un délit de sale gueule. Je pense que très vite...
Tu mets les pieds dans le plat, toi.
Oui, je suis comme ça. Sa personne, finalement, n'incarnait pas assez aux yeux des supporters lyonnais les ambitions de l'OL, notamment auprès de ceux qui ont grandi avec le grand OL qui raflait tout en Ligue 1. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je pense qu'on a très vite fait son procès à Genesio, sans doute trop vite. Après, Rudy Garcia, le problème, c'était dès le premier match. C'est-à-dire qu'il a traîné avec lui
son passé
et notamment ce qu'il avait dit sur l'OL quand il était coach de l'OM, hein, c'était juste avant l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est deux choses qui expliquent la défiance très rapide des supporters lyonnais envers les deux coachs précédents. Et puis finalement, Bosch, il arrive après Garcia. Donc déjà, ça, c'est un énorme avantage pour lui parce qu'il incarne le renouveau. En plus, ancien coach de l'Ajax, empreinte de jeu, promesse de jeu et puis conf, où il est très prolixe, où contrairement à Rudy Garcia qui cultivait un peu la culture, qui cultivait la culture, c'est pas très joli, mais qui cultivait le sens de l'excuse, notamment en chargeant les arbitres, etc. Bose, lui, il parle énormément de jeu, il n'hésite pas d'ailleurs aussi à charger ses joueurs, et puis c'est assez passionnant ses conférences de presse, donc je pense que c'est un très bon communicant. Et alors, certes, sur le terrain, ça se passe moins bien, mais je pense que ça passe beaucoup mieux auprès du public, mais c'est vrai que quand on remarque cet écart, il y a de quoi être surpris parce que finalement, il a de moins bons résultats que Garcia et Genesio.
Mais pour rebondir sur cette fameuse déclaration de mercredi, après la défaite contre Lorient, où il dit qu'il aurait pu changer 7 ou 8 joueurs à la pause, c'est quand même pas la première fois.
C'est vrai, notamment au début où il les dégommait.
Qu'il dit une phrase de ce type et on peut quand même se poser la question, finalement, est-ce que le problème ne vient pas plus de lui que des joueurs? Je suis le premier à penser que, finalement, on en a souvent trop fait avec les générations lyonnaises et que parfois, elles se sont un petit peu comportées comme dans un fauteuil, c'est-à-dire une forme de confort.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai, je ne sais pas si c'est encore vrai, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements cet été, avec les retours notamment de Lacazette et Tolisso. Et malgré ça, justement, les retours de joueurs qui sont des cadres, qui ont connu le plus haut niveau, Arsenal, le Bayern, on se rend compte que le discours n'imprime toujours pas franchement, qu'il y a parfois du bon, parfois du moins bon, parfois du pressing, parfois du désordre. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi lui-même ne se remet très peu finalement en question.
Mais parce que c'est un dogmatique, il ne se remettra jamais, jamais en question. C'est comme c'est toute cette lignée d'entraîneurs qui ne se remet jamais en question et qui va mourir avec ses idées, quoi qu'il se passe de toute façon. De toute façon, ça n'arrive pas beaucoup. Hein. C'est football total, pressing intense, jeu vertical. Normalement. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec ces principes de jeu-là. Il a vu que son équipe soit n'adhérait pas, soit ne comprenait pas, soit n'arrivait pas à le mettre en place. Mais de toute façon, quelles que soient les raisons, finalement, peu importe le résultat elle-même, c'est-à-dire une sorte de masse informe dont on a du mal à identifier ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ça continue. Et même quand Lyon gagne, alors à de rares exceptions, on pense à Angers la semaine dernière où ça a vraiment bien fonctionné, mais sinon on a du mal à avoir une équipe qui a la possession, qui domine son sujet ou qui veut mettre en place ce que son entraîneur nous raconte en conférence de presse. Et c'est tout ce delta entre ce qu'il raconte et ce qu'on voit qui pose aujourd'hui la vraie question de jusqu'à quand ça peut durer. Alors les résultats jusqu'ici
sont
pas infamants du tout puisque c'était la première défaite.
Il y a quand même un calendrier qui a été plutôt clément en début de saison. Là il va y avoir Monaco, Paris et Lens dans cet ordre il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça va quand même être un vrai révélateur. Et juste pour revenir sur l'argument de la pancarte, de son passé, l'Ajax, Dortmund, etc. Je peux pas croire que la direction puisse elle aussi se contenter de cet argument-là. On l'a vu à Marseille. Longoria a été capable de trancher vraiment dans le vif, quitte à prendre un entraîneur qui a été sifflé quand même à ses débuts et qui faisait finalement tout le contraire de ce que faisait Sampaoli avant lui. Mmh. Bah, c'est aussi ça le rôle d'une direction, c'est d'un président, c'est aussi de faire des choix qui vont peut-être pas toujours plaire aux supporters, mais qui sur le terrain auront un vrai impact.
Moi, ce qui me dérange aussi avec Peter Bosz, c'est qu'il est toujours dans la promesse. Dans la promesse que ça va aller mieux.
Alors que ça fait plus d'un an qu'il est là.
Voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a autre chose qui me dérange aussi, c'est certains de ses choix, notamment de mettre Thiago Mendes, de fixer Thiago Mendes en défense centrale. Alors ça tombe mal, on parle de ça trois jours après qu'il se soit fait enrhumer par Ouattara et qu'il ait fait une bévue énorme pour l'ouverture du score de Lorient. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux tenir une saison et est-ce que tu peux jouer le podium d'un championnat de France qui est quand même, à mon sens, de plus en plus concurrentiel, notamment en haut du tableau, en ayant Thiago Mendes défenseur central? Moi, ça me paraît très, très, très compliqué à tenir. Les dirigeants l'ont suivi puisqu'ils n'ont pas mis des billets sur un défenseur, sur un autre défenseur central. Voilà, pour moi, ça fait quand même beaucoup d'interrogations et je suis... Enfin, je sais pas, on verra combien de temps ça tient, mais c'est déjà pour moi un miracle que ça tienne encore.
Il y a quand même le risque que Lyon attende trop, entre guillemets, parce qu'on l'a dit, il y a quand même trois matchs super importants et super difficiles sur le papier qui arrivent. Et qu'après ces trois matchs, on sera quand même plus avancé sur la saison et qu'il y aura potentiellement des écarts qui se seront créés avec le tableau. C'est un petit peu là-dedans que s'est perdu Lyon la saison dernière, donc attention quand même à ne pas refaire la même erreur.
De toute façon, ils n'avaient pas limogé en ce début de saison qui, au niveau des résultats.
Bien sûr.
Alors, au niveau du contenu, c'est moyen, mais au niveau des résultats, c'est plutôt bon. Il aurait fallu faire ça à la mi-saison, enfin à l'intersaison, pardon. Il y a eu des vraies interrogations, mais Olas les a aussi très rapidement levées. Donc écoutez, ils ont choisi de faire le Paris-Bosch. On verra jusqu'où ira l'oreille avec Peter Bosz.
Absolument. C'est une belle conclusion, Martin. Va falloir que je passe à la compta après mon intro, moi.
Plus ou moins belle que ta chemise?
Je préfère ton petit t-shirt palmier.
Oui, écoute, c'est trois fois rien, ça sert. À rien m'habille, hein, Julien. Bah merci, Julien.
Merci à toi.
Tu sais qu'on retrouvera Maxime la semaine prochaine.
Ouais, j'ai très peur de la suite. Bah peut-être moi, pas peut-être t'as moi.
Toi, peut-être que c'était la dernière, effectivement, vu ta... Parce que, bon, vous le savez, Maxime, ça reste quand même notre chef. Notre grand chef, hein, même.
Bien sûr.
C'est lui qui décide de notre avenir.
De tout.
Il peut couper des têtes.
Absolument.
Et je pense que celle de Jap est de moins en moins bien accrochée sur son coup.
C'est bête parce que j'avais une petite émission de prévue mercredi, une toute nouvelle émission.
Ah oui.
Avec mon petit chouchou Arthur, tant pis.
Ouais, tant pis. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Anne Thirion Anister. Merci Marco Popopovic.
Qui est brillant. Je le dis à chaque fois.
Mais... Et Anne, non, par contre.
Brillante aussi.
Voilà, merci.
Mais c'est un métier que je maîtrise moins. Parce que moi, tu sais, le graphisme...
Il y a peu de métiers que tu maîtrises. Mais il n'y a peut-être pas grand-chose que tu maîtrises. On l'a vu là pendant une demi-heure. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et en attendant, soyez vigilants ce week-end. Et notamment Julien Pereira, parce qu'il m'affronte à mon petit gazon. Il est premier, je suis deuxième.
Je maîtrise des choses.
Je pense que là aussi, on est sur une fin de règne. Ciao et bonne semaine à tous.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.